voile.
En ce 9 mai, journée de l'Europe, la construction européenne fête ses 70 ans et à Strasbourg sera donné le coup d'envoi cet après-midi de la conférence sur l'avenir de l'Europe en présence d'Emmanuel Macron. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour.
Historien, géographe, professeur à Sciences Po, observateur éclairé de cette Europe qui a été mise au défi depuis plusieurs mois avec la pandémie, pas mal critiquée aussi. Je pense notamment à l'approvisionnement des vaccins, quand on voit encore hier au sommet de Porto tous les dirigeants européens qui exhortent les États-Unis de livrer leurs doses à une Europe qui pourtant les fabrique en grand nombre. Elle sort comment l'Europe de cette crise sanitaire, alors que va se poser la question du passeport vaccinal aussi dans quelques temps?
Alors, d'abord, la première chose qu'il faut évidemment bien énoncer, c'est qu'elle sort avec beaucoup de morts. Ça reste, je veux dire, quelle que soit la manière dont elle en sort politiquement, si elle est plus intégrée, etc. Bon, l'Europe a quand même été et est toujours, disons, la région du monde, le pays, le métapays, qui a été un des foyers de la pandémie. Et ça, ça va rester dans l'histoire. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle en sort, on va dire, plus intégrée. Voilà, c'est-à-dire que les Européens ont été, je crois, très collectivement saisis par ce qui s'est passé quand l'épidémie a commencé à frapper, quand la pandémie a commencé à frapper en Italie. Enfin, on se rappelle tous des images.
Le phénomène de sidération,
effectivement. De sidération à Bergame, les camions militaires qui devaient dégager les corps et les cadavres. On ne savait plus où les enterrer.
Mais justement, est-ce que l'Europe a été à la hauteur de ce qu'elle a dû traverser comme crise?
Alors moi, il me semble que oui. Alors, évidemment, je dis « il me semble ». Bon,
je reviens sur les vaccins, parce que forcément, c'est ça qui nous interpelle. Puisque on a vu encore, j'avais Marie-Paul Kenny, la présidente du comité vaccin Covid-19, hier à ce micro, qui parlait de ces Américains qui ont dit « America first ». Pas les Européens.
Bien sûr, mais si on prend, prenons les choses une par une, si on prend la réponse, on va dire, aux conséquences économiques et sociales. Bon, là, la réponse est oui, on ne va pas revenir, on ne va pas redétailler à nouveau le fameux plan de relance qui est très important, la mobilisation de la Banque Centrale Européenne qui a évité aux différents États de faire faillite, faire faillite, j'exagère, mais disons, voilà, de soutenir les dispositifs de chômage partiel, d'injecter un certain nombre d'euros, bref, ça c'est très très important. Et au passage, il faut quand même le signaler parce que c'est un objet de débat, les fameux critères de Maastricht ont été suspendus à l'unanimité des États membres.
On a su s'adapter, l'Europe a s'adapter.
Et ça, ça a été un mouvement collectif des 27 États membres, avec la Commission, le Parlement européen, etc. Bon, la politique sanitaire, évidemment, donc je l'ai rappelé, il y a une grande létalité de l'épidémie en Europe.
Bien sûr.
On s'est rendu compte qu'un certain nombre de systèmes de santé, dans à peu près tous les pays finalement, au moment de la première vague, on a dit en Allemagne on s'en sort mieux qu'en France et en Belgique, certes. Bon, puis au moment de la deuxième et la troisième vague, on s'est rendu compte que tout le monde était un peu bousculé et en difficulté, tous les systèmes de santé. Bon, là, on a tous été bousculés et on s'est rendu compte, petit un, que l'Europe n'avait aucune compétence dans la politique de santé.
Exactement.
Elle n'en avait pas parce que les États européens et peut-être les peuples européens n'en avaient pas envie. Et puis donc tout le monde s'est dit, ça serait peut-être bien du coup qu'on mutualise, qu'on fasse des choses ensemble, comme dans les Trois Mousquetaires, on sera plus fort.
Mais est-ce qu'on a été plus fort justement?
Oui, on a été plus fort. Clairement, on a été plus fort parce que alors, on aurait pu être encore plus fort.
Oui, je dis ça parce que je sais que vous dites que l'Europe n'a pas forcément été assez agile.
C'est vrai. Par exemple,
sur les... Je reviens toujours à ces fameux vaccins.
Mais
on n'invente pas, puisque ce sont des Européens. Je pense par exemple au PDG de Moderna, qui est un Français, mais dont l'entreprise est à Boston.
Bien sûr, mais bon. Sur les vaccins, effectivement, on va le dire comme ça. Les choses, ce n'est pas qu'elles sont nuancées. C'est qu'il y a des choses où les Européens ont été très bons, donc on peut dire « on a été très bons ». Voilà. Et il y a des choses où on a été effectivement plutôt mauvais. Voilà. Alors là où on a été très bons, c'est quand on a décidé pour la première fois qu'on avait fait déjà au mois d'avril avec les masques, on allait se grouper pour précommander ensemble les doses, y compris à des laboratoires dont on ne savait pas encore s'ils arriveraient à produire des vaccins. Il faut quand même bien se rappeler dans quelle situation on était il y a 10 mois. C'était que des paris. Donc les 27 États membres ont dit à la Commission européenne on vous mandate, on vous charge de mener pour nous des négociations. Et ça, je crois qu'objectivement, c'est une réussite, parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Certains États qui sont mieux dotés, qui ont plus d'argent, qui ont plus de réseaux, auraient précommandé plein de doses. On aurait été en concurrence entre nous. Et du coup, on se serait retrouvé dans une situation franchement très, très délicate avec, je ne sais pas moi, les Maltais ou les Estoniens en très grande difficulté. Bon, donc ça, c'est le point fort. Le point faible de la manière dont ça a été mis en œuvre par la Commission européenne sur un mandat des 27 États membres, c'est d'abord qu'on a voulu tirer le plus possible les prix vers le bas, d'accord ? C'est ensuite qu'on a voulu se dégager le plus possible, la Commission européenne et les États membres ont voulu le plus possible se dégager d'éventuelles responsabilités juridiques pour d'éventuels, on va dire, effets secondaires ou choses...
Principe de précaution, imprévus. Comme vous dites.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ces deux choses, c'est que si on compare aux Britanniques, si on compare aux États-Unis d'Amérique, si on compare aux Israéliens, qui sont les trois pays de l'OCDE, donc comparables aux pays européens, qui, comme chacun le sait, se sont fait livrer beaucoup plus vite, en nombre beaucoup plus grand, et ont vacciné, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus. Et ben, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'aversion au risque chez les Européens. Parce que quand la Commission... Alors aujourd'hui, on dit c'est commode. Ouais, la Commission, elle a été trop prudente, elle a voulu tirer les prix vers le bas, etc. Mais rappelons-nous dans quelle situation les Européens étaient au mois de novembre dernier. Donc les Européens, c'est-à-dire nous tous. On disait, ah, quand même, il ne faut pas engraisser les entreprises pharmaceutiques qui vont faire d'énormes profits. Et encore aujourd'hui, il y en a qui le disent. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais en tous les cas, dans certains pays, il n'y a pas eu ce type de débat. D'accord ?
C'est important.
Et par rapport à la responsabilité juridique, bon ben voilà, il y a... Encore une fois, les gouvernements américains, israéliens, britanniques n'ont pas dit « Écoutez, nous, on veut absolument être dégagés de responsabilité. »
Je vais vous poser une dernière question, Sylvain Kahn, puisque vous êtes très bavard et c'est important. Juste une dernière question en quelques mots. Il y a ce problème du divorce peut-être avec les citoyens européens. C'est pour ça que je suis sur ces vaccins, effectivement.
Mais je comprends, non, mais vous avez
raison. Parce que, effectivement, cet après-midi va être lancée justement une grande consultation Internet où on va pouvoir dire, nous, citoyens européens, comment je veux mon Europe dans 10 ou 15 ans. C'est ça pour réconcilier ?
Écoutez, moi, je ne crois pas que les Européens soient fâchés avec l'UE. Je pense au contraire, mais l'avenir le confirmera ou non, je pense au contraire que les Européens... Il y a une demande sociale d'Europe qui s'est cristallisée ou qui s'est renforcée à l'occasion de cette crise. Parce qu'encore une fois, sur les vaccins, vous voyez, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas qu'on n'aurait pas dû confier, un rôle à l'Union européenne. On n'aurait pas dû mutualiser les choses. Les Européens, aujourd'hui, disent que l'Union européenne aurait dû faire mieux plus vite. Alors, moi, je dis simplement, rappelons-nous qu'encore une fois, en novembre dernier, dans beaucoup de pays européens, il y avait une proportion importante et parfois majoritaire dans les sondages d'opinion de gens qui disaient « Ouh là là, nous, on se méfie des vaccins, on n'a pas forcément envie de se faire vacciner ». Donc moi, il me semble que...
Il ne faut pas que l'Europe soit...
Moi, mon hypothèse, c'est qu'en fait, l'Europe,
coupable dans cette
elle est
question-là.
Le reflet,
elle est
de,
le
ce
reflet
que
de ce que nous sommes.
Et voilà, on a envie d'être de la jouer plus collective et plus solidaire, eh ben on la joue plus collective et plus solidaire. On est prudent vis-à-vis des vaccins, on se méfie du capitalisme et des bénéfices qui pourraient être faits par des grandes entreprises, peut-être à juste titre. Du coup, la Commission européenne a été prudente. Vous voyez, voilà.
Débat.
Alors, donc, du coup, on a une Europe qui est comme nous, quoi,
comme
à notre
nous,
image.
À notre image. Avec,
pour le meilleur et pour le pire.
Merci beaucoup, Sylvain Kahn. Très bonne conclusion. Historien, géographe, professeur à Sciences Po. Et je rappelle votre ouvrage, Histoire de la construction de l'Europe depuis 1940.